La semaine dernière, avec le psaume 110, on avait pu voir cet appel aussi à ne pas craindre, à ne pas avoir peur du lendemain, pas avoir peur de la nouvelle année qui commence, mais de pouvoir se confier en Dieu. Dieu reste au contrôle, Dieu agit et nous invite simplement à vivre à sa suite. Dieu avait promis à David, ce descendant, dans le psaume 110, Jésus-Christ, pour que la bénédiction promise à Abraham puisse venir. Et voilà, je propose que vous puissiez regarder ensemble ce livre de Ruth pour réfléchir aussi comment laisser Dieu répandre cette bénédiction durant cette année au travers de nos vies. Alors, on va regardez tout le livre de Ruth. Donc, on n'aura pas le temps de le lire entièrement. Ça, je vous laisse le faire chez vous, peut-être cet après-midi ou cette semaine. Mais on va lire des petits passages, toujours voilà, avec cette question. Comment Dieu veut nous utiliser là où nous sommes, dans le travail, dans nos couples, là où nous habitons, dans nos associations, pour répandre cette bénédiction qu'il veut répandre à toutes les nations. Et je vous propose de commencer la lecture avec l'introduction du livre de Ruth, chapitre 1, nous allons lire les cinq premiers versets. Au temps du gouvernement des juges, donc pas une période très facile, pas une période très glorieuse dans l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez que ça finit avec une guerre civile, avec l'immoralité qui est bien présente. Même un prêtre, le petit-fils même de Moïse, qui entraîne le peuple dans l'idolâtrie. Nous sommes dans cette période-là, d'accord? C'est dans cette période-là que nous allons lire ce récit, dans cette terrible période de l'histoire du peuple. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent eux aussi, tous les deux. Et la femme resta, privée de ses deux enfants et de son mari. Voilà le décor de notre récit planté. Décor qui nous décrit une descente dans le malheur terrible pour Noémie. Pendant 10 ans, elle descend de plus en plus dans le malheur et dans la difficulté. Et pour une femme de l'époque, c'était vraiment quelque chose de terrible, parce que contrairement à aujourd'hui, les femmes étaient dépendantes d'un homme. Aujourd'hui, une femme travaille, elle s'assume, elle peut vivre toute seule. Mais à l'époque, une femme ne vit jamais seule. Soit elle dépend de son père, soit elle dépend de son mari, soit elle dépend même de son fils. Mais ici, le mari meurt, les fils meurent, et donc cette femme n'a plus de moyens de subsistance. Elle est en fait en grande précarité. Et on peut se poser la question, pourquoi? Et la réponse du texte, c'est, on ne sait pas. Le texte ne nous dit rien à ce sujet-là. Le texte ne nous dit pas que c'est une punition parce qu'ils ont quitté Israël ou une punition par rapport à quoi que ce soit. Rien n'est dit dans notre passage, donc nous n'allons rien mettre. Mais on voit que Dieu a permis que ce malheur arrive. Malheur vraiment long, plus de 10 ans. 10 ans de malheur pour cette femme. Et la question qu'on veut se poser alors, et avec laquelle le texte va répondre, c'est comment Noémie va-t-elle réagir dans ce malheur? Comment va-t-elle vivre face à ces années de malheur? Et le texte va se dérouler en 4 scènes pour nous décrire cela, et nous allons les regarder tour à tour. Donc, scène 1, nous avons le chapitre 1 qui nous parle du retour en Israël. Noémie En tant que Dieu est intervenu en faveur de son peuple et a pourvu à du pain. La famine a pris fin et donc elle veut retourner à Bethléem. Mais comme elle n'est pas la seule femme dans le malheur, elle n'est pas la seule femme dans la précarité, elle veut que ses belles-filles puissent aussi vivre dignement. Et elle leur dit, retournez dans la maison de vos pères. Moi, je ne peux pas. Il nous faut un homme, vous avez besoin d'un homme, donc retournez dans la famille de vos pères, c'est là que quelqu'un va prendre soin de vous, et peut-être même vous aurez la possibilité de vous marier, parce que moi je ne pourrais pas vous donner un homme. Et alors qu'elle les encourage à retourner auprès de leur père, regardez comment elle parle de Dieu à ses belles-filles. Chapitre 1, verset 8. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa et elles se mirent à sangloter. Du fond de sa situation désastreuse, Noémie continue à se confier en Dieu. Dieu reste le Dieu bienveillant, le Dieu de grâce. Elle accepte la souveraineté de Dieu même si elle ne comprend pas tout. Alors clairement, elle ne fait pas comme si de rien n'était. Elle n'est pas la bonne chrétienne qui a toujours le sourire en banane parce que Dieu est au contrôle, donc il n'y a pas de problème, nous ne sommes pas touchés par les circonstances. Non, non, non. Elle pleure, elle sanglote aussi les belles filles. Elle dit aussi que c'est dur, mais Dieu reste souverain. Elle les confie à la bienveillance de Dieu, même dans ce temps difficile, même si elle ne comprend pas. Et c'est là la question que j'aimerais qu'on se pose pour nous. C'est quand la dernière fois qu'une personne a pu exprimer librement sa peine et pleurer sans qu'on lui dise « ne pleure pas ». A pu simplement vivre ces émotions de désespoir aussi au sein de nos cultes, alors qu'on est en train de louer, en disant « Non, chut, il ne faut pas que tu pleures, on est là pour être dans la joie. » Est-ce qu'une personne peut simplement vivre sa peine devant Dieu, quand c'est qu'on ose laisser s'exprimer la difficulté, la réalité de nos sentiments devant Dieu? Et Ruth nous encourage ici à le faire. Il va jusqu'à parler même de cette bienveillance, et c'est exactement le même terme que Dieu a utilisé lui-même pour se décrire quand il s'est révélé à Moïse dans ce fameux chapitre d'Exode où il a dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Riche en bienveillance et en fidélité. Ce Dieu riche en bienveillance a permis que je perde mon mari et mes deux fils, mais qu'il prenne soin de vous, parce qu'il reste souverain, il reste bienveillant, même si franchement, c'est dur. Donc clairement, nous n'avons pas affaire ici à une rebelle. Voilà comment Noémie réagit. Elle s'en remet à Dieu. Elle n'est pas en colère, elle n'est pas aigrie, mais elle est fidèle en acceptant la volonté de Dieu. Mais en même temps, regardez comment Noémie ose parler de son malheur avec des termes très forts. Je continue toujours au chapitre 1, à partir du verset 12. « Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai « il y a de l'espoir pour moi », quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles! Car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elle continue au verset 20, quand elle retourne à Bethléem, et que les femmes disent, n'est-ce pas là, Noémie? Elle leur dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Et c'est impressionnant de voir ces deux choses en même temps. L'Éternel est bienveillant, mais en même temps, c'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui qui a témoigné contre moi. C'est sa main qui s'est pesée, qui a pesé sur moi. Et elle ne dit pas, franchement, les malheurs ont eu raison de moi. Elle ne dit pas non plus, franchement, Satan, qu'est-ce qu'il a été fort sur ce coup-là. Elle dit, l'Éternel a agi. La main de l'Éternel s'est levée. Autrement dit, tout en parlant de la bienveillance et de la fidélité de Dieu, elle ose dire aussi, c'est Dieu qui est souverain, même sur mes temps de malheur. Même sur mon malheur qui dure. Et c'est dur. C'est mon mari qui est mort, c'est mes fils qui sont morts. Elle ose dire, l'Éternel est souverain. Et c'est dans sa main que je suis. Et c'est dans sa main que toute ma famille a été. Dans sa main que notre malheur se trouve. Et c'est dans sa main que nous confions. Il est bienveillant. Dieu a permis cela. Et au final, cette scène va à l'encontre de nos pourquoi sans nombre face au malheur. Nos pourquoi, comme si, en fait, on méritait uniquement le bonheur. Comme si on méritait uniquement une vie tranquille et que tout aille bien. Non, dans le malheur, Dieu reste le Dieu bienveillant. Il reste le Dieu qui accorde le repos. Et seule une personne comme Noémie, qui a souffert comme Noémie, peut nous interpeller ainsi, nous dire, confie-toi en Dieu. Il reste bienveillant, même, je peux te dire cela, même après 10 ans de malheur, même après avoir perdu mon mari et mes fils. Alors, confiez-vous en l'Éternel. Comment Dieu va-t-il déployer sa bienveillance et accorder du repos? Selon la prière de Noémie, scène 2, chapitre 2. Et nous lisons le verset 1. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélech, qui se nommait Boaz. Et ici, c'est intéressant parce que le narrateur nous introduit un nouveau personnage, pas simplement dans le récit, dans les discussions, dans les rencontres, mais en fait, il nous l'introduit à nous, le lecteur, pour qu'on comprenne ce qui va se passer. Et il nous dit, voilà, il y a un homme là qui est leur proche parent et il a une caractéristique particulière, cet homme, c'est qu'il n'est pas seulement puissant et riche, mais riche rend le terme, c'est un homme de valeur. Comme Proverbe 31, la femme de valeur. C'est exactement le même terme qui est employé ici, c'est un homme de valeur. Et ce chapitre va nous montrer en quoi Boaz, ce proche parent, est un homme de valeur. Verset 4, voici que Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que votre patron vous accueille, n'est-ce pas? Et là, il nous montre en quoi Boaz est un homme de valeur. C'est un homme pieux. Rappelons-nous quelle période nous sommes. Nous sommes dans la période des juges, période bien noire. Et dans cette période, nous avons un homme de valeur qui continue à se confier en Dieu. Alors que tout le monde vit à l'encontre, nous avons un homme qui reste attaché à Dieu. Et à cause de cela, c'est décrit comme un homme de valeur. Et face à une étrangère, qui est Ruth, il va prendre soin d'elle, alors qu'elle pourrait être dans les ennemis de son peuple. Regardez à partir du verset 8, ce qui nous est dit. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. » Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba en se prosternant la face jusqu'à terre. Elle lui dit, comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue? Boaz lui répondit, on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Voilà en quoi Boaz est un homme de valeur. C'est un homme qui assure la protection à cette femme qui est somme toute vulnérable, qui est une veuve dont personne ne prend soin. Rappelons-nous encore, nous sommes au temps des juges. C'est dans cette période des juges où, vous vous souvenez, à la fin du livre des juges, un homme remonte de Bethléem pour aller en Éphraïm et il ne veut pas s'arrêter dans la ville des païens, il veut aller dans une ville pure où il y a des Israélites qui habitent. Et qu'est-ce qui se passe durant cette nuit-là? Il y a des hommes qui viennent, qui tapent à la porte, qui disent « Fais sortir cet homme chez qui il était allé pour que nous puissions le connaître !» Autrement dit, ça nous dit que Israël était devenu comme Sodome et Gomorre. Nous sommes dans cette situation-là, n'est-ce pas? Et c'est dans cette période-là que cette femme, cette veuve, se trouve. Et elle pourrait être vulnérable. Franchement, un viol ne serait pas malheureusement étonnant dans cette période-là. Et il y en a eu. Et Boaz est un homme de valeur qui assure la protection de cette femme. C'est un homme de valeur qui va même prendre soin de la nourriture de cette femme. C'est un homme de valeur qui va même prier pour cette femme, cette inconnue, cette étrangère, cette ennemie du peuple, afin qu'elle puisse trouver le repos auprès du Dieu de l'Alliance, auprès de l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est donc que le narrateur nous révèle la valeur de Boaz, non pas dans le fait qu'il fasse des miracles, n'est-ce pas? Non pas qu'il conduise une grande guerre comme David pour libérer le peuple. Non pas qu'il nous fasse une grande prophétie en nous disant quelque chose qui est inconnu. Mais c'est un homme de valeur par des actes normaux du quotidien. Par des actes normaux de prendre soin de son prochain. Par cet acte normal de la justice, d'aimer son prochain et de veiller sur elle. Voilà comment c'est un homme de valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu met sur la route alors de nos deux veuves cet homme de valeur, un homme fidèle envers Dieu, et ça s'exprime dans son quotidien, dans son ordinaire. Et le narrateur nous raconte avec humour leur rencontre. On retourne un tout petit peu en arrière, chapitre 2, verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui que j'obtiendrai, dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Il se trouva, dans d'autres traductions, c'est « par un heureux hasard ». Et c'est... Cette expression « par un heureux hasard » nous montre que ce n'est pas du tout un hasard, parce que le narrateur nous a justement introduit Boaz juste avant, au chapitre 2, verset 1. Ce proche parent, cet homme de valeur, et par un heureux hasard, Ruth alla glaner dans ce champ. Ce n'est pas du tout du hasard, mais Dieu a conduit nos deux veuves. Pas par une révélation, pas par un miracle, il n'y a pas eu d'ange, mais simplement par le fait que Ruth est allée travailler. Elle n'est pas restée à prier jusqu'à ce que Dieu intervienne. Elle n'a pas, excusez-moi l'expression, glandé. Il a écrit qu'elle est allée glaner. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Mais elle s'est mise en route pour laisser Dieu agir et Dieu l'a conduite dans le champ de celui qui pouvait prendre soin d'elle. Ce n'est pas un hasard. Et Noémie elle-même va reconnaître que ce n'est pas un hasard. Regardez chapitre 2, toujours verset 20. Nous sommes le soir, Noémie rentre de sa première journée de travail, elle lui exprime tout ce qu'elle a fait, la rencontre avec Boaz, comment il a pris soin d'elle, et voilà la réaction de Noémie. Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Noémie. Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. » Elle reconnaît dans le fait que Ruth ait pu aller par un heureux hasard dans le champ de Boaz que c'est Dieu qui a conduit. C'est la bienveillance de Dieu qui continue à s'exprimer dans l'ordinaire, dans le quotidien. Et cet homme, Boaz, est celui qui a devoir de rachat. C'est quoi ce devoir de rachat? En fait, à l'époque, quand une personne faisait faillite, pour rembourser ses dettes, elle devait vendre ses terres. Et quand la dette était trop forte, elle devait parfois même aller jusqu'à parfois vendre ses enfants ou même se vendre elle-même pour rembourser sa dette. Et elle devenait ainsi l'esclave de la personne à qui elle s'était vendue. Et lorsqu'une personne de sa famille prend connaissance qu'elle est devenue esclave à cause de ses dettes, elle a devoir de rachat. C'est-à-dire qu'elle a le devoir d'aller rembourser la dette à la personne à qui elle s'est vendue pour libérer son proche parent. Donc celui qui a devoir de rachat, c'est celui qui a la capacité, la puissance, le devoir de libérer son proche parent. Cette personne qui rachète est le rédempteur. C'est un terme qu'on utilise, qu'on chante bien souvent. C'est ça que ça veut dire, c'est racheter. D'accord ? Jésus-Christ est notre rédempteur dans le sens qu'il nous rachète, il nous rend libre. Mais on a aussi un autre cas dans lequel le devoir de rachat s'exprime. C'est si un homme meurt et qu'il laisse sa femme sans enfant. Alors le frère du défunt doit prendre la femme de son frère pour lui susciter une descendance. En fait, il va coucher avec elle pour qu'elle puisse avoir un fils. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit avant, une femme seule ne peut survivre. Elle doit avoir un homme pour subvenir. Et donc, il faut lui susciter un fils qui va prendre soin d'elle, mais également un fils qui va pouvoir perdurer le nom et la famille du clan. Parce que si une famille disparaît, alors le clan devient plus petit et devient plus faible. Et la femme n'a plus de quoi subvenir à ses besoins. Et notamment le fils va prendre soin d'elle quand il sera plus grand. Certainement ce que Jésus a fait avec sa mère, parce qu'on n'entend plus parler de Joseph. Et alors, le frère du mari, qui suscite une descendance à la femme, est celui qu'on appelle le rédempteur. Celui qui a devoir de rachat. Donc le rédempteur est celui qui permet à quelqu'un de redevenir libre, mais c'est aussi celui qui permet à ce que la vie continue. Et Noémie nous dit ici, dit à Ruth, c'est lui qui a devoir de rachat, c'est lui notre rédempteur, c'est lui qui a la capacité de nous rendre libres, c'est lui qui a la capacité de nous faire vivre. Et alors Ruth va travailler dans ses champs. Dieu met sur la route de nos deux veuves le rédempteur, un homme qui craint Dieu. Ça ne veut pas dire que la difficulté s'enlève, elle reste en précarité, elle reste veuve, mais Dieu prend soin de ses veuves par un homme fidèle et droit. Question. Dans nos difficultés, est-ce qu'on sait regarder, est-ce qu'on sait reconnaître les bontés de Dieu ? La bonté de Dieu ne veut pas dire que le malheur est parti. Mais ici, Noémie nous invite à voir que la bonté de Dieu s'exprime dans le fait que quelqu'un prenne soin de nous dans notre malheur. Et deuxième question, savons-nous, nous aussi, nous mettre en route, même un petit pas, au lieu de rester à nous morfondre ? Et Ruth nous montre cet exemple-là. Pour laisser Dieu agir, et Dieu a agi, elle s'est mise en route. Elle n'est pas restée à se morfondre et à attendre pieusement que Dieu agisse. Mais pieusement, elle a agi. Et elle s'est mise en route. Scène 3. Jusqu'ici, Noémie était assez en recul, mais elle veut prendre soin de Ruth. Et elle a toujours cette idée de donner du repos à Ruth. Et ce repos, c'est dans un sens de foyer, de quelqu'un qui va prendre soin d'elle et pourvoir à son bonheur. Et dans ce sens-là, alors, Noémie va jouer aux entremetteuses pour sa belle-fille. Verset 1 du chapitre 3, on va lire jusqu'au verset 5. Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent ? Or lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Et elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Mais là, ça ne se passe pas exactement comme Noémie l'avait dit. Noémie lui avait dit d'attendre, de laisser l'initiative à Boaz, mais c'est encore une fois Ruth qui va prendre l'initiative en demandant le refuge dans les termes dont Boaz avait prié. Regardez juste le verset 9. Il dit, donc c'est Boaz qui dit à Ruth, après s'être réveillée, « Qui es-tu ?» Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. » Elle demande le refuge ici à Boaz. Alors, étends ton aile. Ce n'est pas que c'était un ange qui avait des ailes, mais en fait, c'est quoi cette aile? C'est le pan du manteau dans lequel on recouvre quelqu'un. En tant que parent, ça nous arrive quand nos enfants ont froid d'ouvrir notre manteau et de le prendre à l'intérieur, n'est-ce pas? Et en fait, c'était la même chose qui était fait, mais notamment dans le sens du mariage. Étends ton aile, viens mettre ton aile sur moi. Et c'est dans ce sens-là que le mari mettait son manteau sur sa femme et symbolisait le mariage. Et c'est en fait exactement dans ce sens-là et dans cette manière-là que Boaz avait prié pour Ruth au chapitre 2, que tu trouves du repos sous les ailes de l'Éternel de qui tu es venu trouver refuge. Et Ruth vient lui dire, hey « Hé Boaz, tu te souviens de ta prière? Et bien maintenant, accomplis-la. Étends ton aile. Pourquoi? Parce que c'est toi, notre proche parent, c'est toi qui as devoir de rachat. » Mais ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est que Ruth continue encore une fois à prendre les initiatives. Ruth n'est pas le jouet dans la main de Noémie. Déjà en Moab, c'est elle qui avait convaincu Noémie de rester avec elle. Une fois arrivée à Bethléem, c'est elle qui a pris l'initiative d'aller travailler. Et maintenant qu'elle est en pleine rencontre avec Boaz, c'est elle qui prend l'initiative de la demande du mariage. Et ce courage dont elle fait preuve émerveille Boaz, car il fait ressortir la beauté du caractère de Ruth. Regardez ce que Boaz lui dit, verset 10. Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Mais maintenant, pardon, il n'y a pas le mais, maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. » Chapitre 2, on découvrait un homme de valeur au travers duquel Dieu prenait soin de ses veuves. Mais ici, on découvre une femme de valeur. Ruth est une femme de valeur, tout comme Boaz. Et les 3 mois qui viennent de s'écouler avec les moissons ont montré à tout le monde, pas seulement à Boaz, mais à tout le monde sur la place publique, que Ruth est une femme de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cherché les aventures par-ci, par-là. Elle n'a pas cherché des avantages auprès des jeunes hommes riches ou pauvres, plutôt riches tant qu'on y est. Mais Boaz est étonné et il remarque cela. Mais le fait qu'elle soit allée chercher des aventures, qu'elle se comporte en prostituée, n'aurait pas été étonnant. Pourquoi? Parce que l'auteur n'arrête pas de nous rappeler régulièrement que Ruth est la Moabite. Et que ce peuple de Moabites n'est pas un peuple qui a une moralité très élevée. On peut se souvenir de l'épisode de Baal-Péor dans les plaines de Moab, quand Israël sortait du désert, où le roi avait appelé Balaam pour maudire le peuple, et ça n'avait pas marché. Dieu s'était opposé à la malédiction. Et alors, il avait donné un conseil à Balaam. Franchement, on n'arrive pas à les avoir par la malédiction. Mais il y a un autre moyen par lequel on peut les avoir. Vous savez quoi? C'est le sexe. Vous savez ce qu'on va faire? Lâcher les femmes. On envoie les femmes et puis on va les corrompre comme ça. Je suis désolé, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ils n'ont pas hésité, ils ont lâché leur fille et ils ont corrompu et Dieu s'est mis en colère contre son peuple. Ce désir du cœur qui est terrible dans la vie de l'homme. Mais chez cette Moabite, étonnamment, elle ne se comporte pas comme ça. Elle est une femme de valeur. Et même, ça aurait pu aller plus loin, elle aurait franchement pu se remarier sans honte et légalement. Elle aurait pu se remarier avec qui elle voulait, jeune ou vieux, riche ou pauvre. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle refusé de se marier? Franchement, un mari aurait pris soin d'elle, n'est-ce pas? Mais si elle se mariait avec n'importe qui, qu'est-ce qui se serait passé pour Noémie? Qui aurait voulu prendre soin de la belle-mère qui n'est pas de sa famille? Personne. Si elle se marie avec un autre homme, bye bye la belle-mère, débrouille-toi.
et elle a renoncé à son bonheur. Elle a renoncé à son repos pour prendre soin de sa belle-mère. Ruth a fait le choix de renoncer à sa vie. Elle a donné sa vie pour prendre soin de sa belle-mère. Ruth est une femme de valeur. Pas de miracle, pas de grande prophétie, pas de grande libération, mais un quotidien. L'ordinaire du quotidien qui aime, qui prend soin et qui se donne. Dieu relève Noémie par ses serviteurs. Un homme de valeur, Boaz, qui agit dans le quotidien. Ruth, une femme de valeur qui agit dans son quotidien. Les deux dans l'ordinaire, par des aspects très pratiques. L'un et l'autre différents, mais très pratiques du quotidien. L'ordinaire du quotidien, si ce n'est le miracle de l'amour. De se donner, de prendre soin de l'autre. De vivre au final les 10 commandements, la justice de Dieu. Et tout semble aller vers une fin heureuse. A priori, elle va se marier avec Boaz, mais on a un petit problème, c'est que Boaz n'est pas le plus proche parent. Il y en a un autre. Et ça nous amène à la scène 4. Donc directement après avoir vu Ruth, Boaz part pour la ville pour attendre celui qui a en premier le devoir de rachat. Il l'interpelle devant les responsables de la ville pour mener la transaction. Chapitre 4, verset 3. Puis il dit, donc c'est Boaz qui parle à celui qui avait le devoir de rachat, « Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Et moi, j'ai pensé t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir. Je ne l'ai qu'après toi. » Il répondit, « C'est moi qui rachèterai. » Et là, le lecteur est déçu, n'est-ce pas ? C'est pas comme ça, c'est pas très romantique, c'est pas hollywoodien à ce niveau-là, n'est-ce pas ? C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Forcément que l'autre va racheter. Il a la possibilité d'épouser une vieille qui va bientôt mourir et il va hériter des terres. Franchement, c'est tout bénef, n'est-ce pas ? Donc pourquoi se priver ? Mais Boaz continue, verset 5. Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le devoir de rachat répondit, « Je ne peux pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. » En fait, c'est pas si simple, hein ? Il y a la vieille, mais il y a aussi la jeune veuve. Et racheter le champ veut dire que je ne vais pas travailler pour moi et pour mon héritage, mais je vais devoir coucher avec la jeune, lui susciter un fils, et m'investir dans celle-là, dans ses enfants, en prendre soin, les nourrir à mes frais, pour ensuite leur dire « Tenez, tout est à vous et rien n'est à moi. » Franchement, c'est pas un bon calcul. Alors ce que j'ai le devoir de racheter, je ne veux pas le faire. Et je te laisse le faire. Pourquoi rajouter ce passage ? Il me semble que d'une part, ça nous montre toute la bonté de Boaz, qui est mis en avant, en contraste avec cet homme. D'autant plus qu'il va, lui, au-delà des exigences de la loi, il va proposer le mariage, il va épouser Ruth pour en faire pleinement une épouse de droit. Mais surtout, il me semble aussi que ce passage nous montre que, encore une fois, le péché de l'homme, l'égoïsme de l'homme, même son orgueil, son égocentrisme, toute son impiété, « j'ai le devoir, mais je ne le ferai pas », n'empêche pas Dieu de dérouler son histoire et d'accorder sa bienveillance. Même les malheurs n'empêchent pas Dieu. Même l'égoïsme, même les gens mauvais n'empêchent pas Dieu de dérouler son histoire et sa bienveillance. Et ça, on a besoin de se le rappeler. À cause de cela, on peut se confier en lui. Et nous venons alors à notre conclusion. Verset 13 du chapitre 4. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Noémie. » Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. Et ici, la conclusion nous invite à prendre du recul. On commence avec Noémie qui descend dans le malheur, et on finit avec Noémie qui est relevée, n'est-ce pas ? Et entre ces deux-là, nous avons cette aide, cette bienveillance de Dieu qui se répand par un homme de valeur, Boaz, et par une femme de valeur, Ruth, qui permet à Noémie d'être relevée par son Rédempteur, qui est son petit-fils. Ce n'est pas Ruth le Rédempteur, ce n'est pas Boaz le Rédempteur. Au final, c'est le fils qui relève la famille. Dieu a relevé la famille de Noémie. Il a agi par la vie ordinaire d'une femme de valeur et par la vie ordinaire d'un homme de valeur. Mais en même temps, Dieu a fait beaucoup plus. Effectivement, la conclusion nous invite à prendre encore plus de recul en nous parlant de David. Nous sommes dans le temps des juges. Là, ce n'est pas une famille qui est bien basse, c'est toute la nation qui est bien basse, dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Et elle est dans le malheur à cause de son péché. Mais au travers de cette famille que Dieu relève, Dieu suscite David, qui va lui pouvoir relever aussi cette famille et amener, et c'est ce que nous lisons à la fin de 2 Samuel, le pays, le peuple, dans le repos, comme pour Noémie. Dieu relève, au travers de ses malheurs, son peuple. Dieu a suscité celui qui a relevé la famille et la nation. David, le roi choisi. Et franchement, il est fort possible que ni Noémie ni Ruth n'aient jamais entendu parler de David. Et peut-être s'ils ont entendu parler de lui, c'est clair qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui avec la promesse que Dieu lui a faite d'un fils, de cette alliance de 2 Samuel 7. Mais cette information est pour nous les lecteurs, elle n'est pas pour elle. Cette histoire est pour nous. Dieu relève son peuple. Dieu intervient dans les malheurs, Dieu reste au contrôle, confions-nous en lui parce que sa bienveillance n'est pas épuisée. Mais au travers de ces malheurs, par la vie d'un homme ordinaire et par la vie d'une femme ordinaire, Dieu est en train de faire l'extraordinaire. C'est son œuvre de faire l'extraordinaire, mais c'est notre heure de faire l'ordinaire. Et notre ordinaire n'est pas de faire des miracles, notre ordinaire n'est pas de faire des grandes prophéties, notre ordinaire n'est pas de prendre l'épée et d'amener à des grandes libérations. Notre ordinaire, c'est de vivre la justice de Dieu, de vivre l'amour du prochain, de prendre soin de l'étranger, même de cette étrangère, Ruth, la Moabite, qu'on penserait franchement dans notre gros cliché que c'est une femme de mauvaise vie. Et en plus, dans notre gros cliché, et la Bible dit que l'enfant du Moabite, même à la 10e génération, ne rentrera jamais dans la nation d'Israël. Or, si on compte bien, Ruth, Obed, Isaïe, David, roi d'Israël, qui n'aurait jamais dû rentrer dans la nation. Et pourtant, ce texte nous montre que Dieu fait grâce, même aux étrangers, même à ceux à qui on ne pense pas. Alors pour cela, vivons notre ordinaire en tant que femme de valeur ordinaire et en tant qu'homme de valeur ordinaire pour laisser à Dieu faire l'extraordinaire, relever une famille, relever un peuple et faire grâce aux nations, aux étrangers. Mais si nous voulons encore prendre plus de recul, nous savons que cette promesse a été faite à David, n'est-ce pas ? Et qu'au travers de David, Dieu va susciter non pas le Rédempteur d'une famille, non pas le Rédempteur d'une nation, mais le Rédempteur de l'humanité. Et Dieu va le faire au travers de cette famille. Et l'auteur appuie encore plus dessus avec l'épilogue du chapitre 4, versets 18 à 21, en nous rappelant la généalogie de David, en partant de Pérets, le fils de Judas, qui nous amène à David. Et c'est exactement cette généalogie qu'on retrouve dans Matthieu 1. ces éléments de cette généalogie pour nous rappeler que le but de l'auteur est de nous conduire à David. C'est pas de nous raconter une belle histoire romantique, c'est de nous montrer comment Dieu agit dans notre monde pour relever. Et Dieu agit dans notre monde pour relever par la vie d'hommes et de femmes qui se confient en lui, même dans le malheur. Même quand ce malheur dure longtemps. Dieu n'a pas promis que ça va être rapide, la résolution. Mais il a promis que sa bienveillance va nous accompagner. Et il nous invite à être les uns et les autres des hommes et des femmes de valeur pour répandre sa bienveillance envers les autres. Pour que lui, qui tisse les liens de l'histoire petit à petit, fasse l'extraordinaire, puisse se révéler à des hommes et à des femmes qui ne le connaissent pas encore et agir dans notre monde. Encore une fois cette année, Dieu veut bénir. Comment Dieu va bénir ? Il va bénir en permettant à des hommes et des femmes de rencontrer Jésus-Christ. Comment va-t-il permettre à des hommes et à des femmes de rencontrer leur Rédempteur ? En permettant à ces hommes et à ces femmes de rencontrer ces enfants qui vivent une vie ordinaire, une vie de valeur, une vie ordinaire de justice, marquée dans le soin, marquée dans la piété, marquée dans la moralité, dans la sexualité, dans dans tout ce qui fait le bien du couple, dans la générosité. Être des hommes et des femmes de valeur ordinaire pour laisser à Dieu faire l'extraordinaire cette année.